Redrum Bitch.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Anne Pastor est journaliste, documentariste et productrice de la série Voyage en terre indigène sur France Inter. Pour cette émission Regarde ailleurs, Anne se prête au jeu du micro qu'elle connaît bien. Je l'ai rencontrée sur le festival du Grand Bivouac à Albertville. Anne, toi tu es ici pour présenter une expo sonore et ton dernier livre, La voix des femmes autochtones, publié aux éditions Akinomé. On va en parler rapidement, mais pas que. Moi ce qui m'intéresse c'est ton parcours, parce que j'ai l'impression que tu as passé une bonne partie de ta vie sur les routes du monde à la rencontre des peuples.
Tout à fait. En fait, j'ai un parcours assez classique de journaliste. Et puis, mais depuis l'âge de 14 ans, je voyageais avec des amis. J'ai fait la première route de la soie ouverte aux étrangers. J'avais 18 ans. Et puis, de fil en aiguille, en fait, c'est finalement un jour ma grand-mère qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas le lien entre ta passion du voyage et ta vie professionnelle de journaliste ?» Et j'ai appelé Claude Villers. Alors bon, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui a été le premier à proposer du grand reportage de voyage et qui a alterné chaque année. C'était soit le tribunal des flagrants délires, émission humoristique, soit de voyage, et qui m'a dit ok, banco, vas-y. À cette époque, j'avais un ami qui était pilote de ligne et qui faisait depuis quelques années le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal sur les traces de Saint-Exupéry, bien sûr. Et donc, voilà, j'ai fait mon premier direct avec une valise satellite pour France Inter, en suivant le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, en petit coucou, évidemment. Et puis, j'intègre le magazine de voyage, je deviens entre guillemets grand reporter, ce qui ne veut rien dire si ce n'est qu'on travaille sur des formats longs. Et puis en 2003-2004, en fait, je rencontre Philippe Descola et à ce moment-là, les Chouars sont aux prises et même prisonniers des exploitants pétroliers qui empoisonnent l'Amazone, sont dans une situation absolument terrible. Ils se demandent s'ils ne vont pas s'ouvrir un petit peu au monde et ils acceptent de me recevoir quelques jours. Et ça va véritablement changer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Personnelle parce que quand j'arrive, ils vont me faire attendre 7 heures dans la case communautaire. En fait, ils me regardaient, ils m'observaient et c'était finalement une manière aussi de rentrer en contact et de se rendre disponible à qui, à eux, à leur culture, à qui ils sont. Puis au bout de 7 heures, je me suis levée, je restais que 4-5 jours. Et donc, j'ai dit, bah, peut-être qu'on pourrait commencer à échanger. Mais ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Évidemment, comme je suis une femme, je suis rentrée beaucoup par et avec les femmes, dans la cuisine, à faire à manger, la bière de la chicha, la bière de manioc, qu'on mastique, hein. La bouche, manioc qui est cuit, qui est de la pâte et qu'on a dans la bouche, on le rend liquide et on le recrache. Et ça deviendra la grande bière de l'Amazonie qui peut titrer jusqu'à 12-14 degrés dans les fêtes. Et puis les femmes, je vais me baigner, me laver plutôt à la rivière. Et elles vont m'expliquer en quichua comment me laver pour que l'esprit de l'eau ne me viole pas. Elles parlent quichua et je ne sais pas pourquoi, je comprends ce qu'elles me disent. C'est-à-dire, je prends aussi conscience qu'il y a véritablement une communication non-verbale. Et puis, si tu veux, je me rends compte de leur faculté de résistance longue de plusieurs siècles et l'importance de leur donner la parole, puisque vraiment, ils ont une autre manière d'être, de penser, d'agir dans le monde et qu'ils sont un laboratoire d'idées pour demain. Alors, je vais réaliser 60-80 documentaires pour France Inter et France Culture, dans le cadre d'une série qui s'appelle « Voyage en terre indigène », où je leur donne la parole. C'est un peu ma marque de fabrique. Alors, au début, j'avais des entreprises anthropologue qui expliquait un petit peu. Et puis après, je me suis dit, finalement, on peut les entendre. Voilà, à moi, mon travail, c'est de rendre leurs propos accessibles. Quand le chaman de la communauté me dit à 3h du matin, pendant 20 minutes, qui il est, parce que j'ai le malheur de lui demander, pouvez-vous vous présenter, et que 20 minutes après, il en est toujours à me dire qu'il est le descendant du boa et du jaguar, c'est fascinant, mais je ne peux pas diffuser 20 minutes. Et en même temps, c'est très important ce qu'il est en train de me dire, parce qu'ils ont une autre manière de penser et d'associer les idées. Et à travers ça, finalement, ils me racontaient le monde de l'invisible. Donc voilà, donc mon travail va être un peu d'être un messager, une messagère, un transmetteur, etc. etc. Et je vais leur donner la parole. La dernière série, donc Voyage en terre indigène, Voyage en terre d'outre-mer, les oubliés de la République française, Guyane, Mayotte, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, et la série en 2018, une histoire francophone des peuples oubliés. Donc là, on est vraiment dans le sujet de la colonisation et de la décolonisation. Et puis, à ce moment-là, la Fondation pour la promotion des femmes et des jeunes filles, Chanel, il se trouve, était dirigée par Myrène Bengoa, qui avait une appétence et qui avait travaillé beaucoup avec les peuples indigènes à la Founaille, et qui me dit, j'ai beaucoup entendu de portraits de femmes, et effectivement, je réalisais, même de manière inconsciente, des portraits de femmes, parce que les femmes, en fait, sont aux avant-postes dans les communautés. Elles sont en charge des ressources, donc elles vont se retrouver en première ligne contre l'extractivisme. Elles sont, à lutter contre le réchauffement climatique. Quand dans la bande du Sahel, il y a une baisse de 20% du taux de pluviométrie et que donc il y a des problèmes d'alimentation et de ressources, c'est les femmes. Elles sont en charge de l'éducation, de la langue, de la culture, etc. etc. Donc c'est vrai que j'ai réalisé pas mal de portraits, mais finalement de manière assez inconsciente, et elle me propose un projet qui les mettra en lumière. J'imagine donc la plateforme documentaire La Voix des Femmes Autochtones, avec un énorme travail sur le son, puisqu'on rentre par une map monde, etc., qui sont à la fois des portraits sonores, des portraits vidéo, mais à partir de photographies autochtones, c'est-à-dire qu'à chaque fois je vais travailler avec un photographe autochtone ou locaux. Au total, c'est 40 portraits réalisés dans 16 pays, qu'évidemment j'ai thématisé en voie de l'émancipation, voie de la nature, voie de l'éducation, voie des arts, et on finit par la voie de la résilience, parce que quiconque a rencontré un jour les femmes survivantes du génocide du Rwanda ne peut pas les quitter, et qu'aujourd'hui malheureusement les Ouïghours, les Rohingyas, etc. sont victimes d'un véritable génocide, et le viol est utilisé comme une arme d'extermination. Et donc voilà, et puis c'est agrémenté de documentaires. On a fait beaucoup d'ateliers à leur demande la troisième année, c'est-à-dire j'ai créé une radio à la demande des femmes de la communauté Sariakou. C'était absolument génial parce qu'on est arrivé avec un petit matériel, au bout de 3 heures elles savaient mieux s'en servir que nous, et en plus ils sont dans l'oralité, donc ils ont une culture incroyable radiophonique. On est allé faire des ateliers de parole au Rwanda, en Polynésie, on est retourné en Guyane, et puis voilà. Et puis il y a ce livre qui est important de notre côté. Les bénéfices, une fois que le livre sera amorti, seront reversés aux associations des femmes autochtones, et voilà, et c'est la voix des femmes autochtones, voilà.
Anne, merci pour ce monologue extraordinaire et incroyable, mais qu'est-ce que tu es prolique, mais voilà, ok, donc si je comprends bien, ce que j'entends, c'est vraiment une vie au service des peuples, ou une vie au service du voyage, hein. C'est vraiment ta profession qui est ta passion, et tu as passé tout ton temps à aller documenter les pays, les communautés, les ethnies.
Exactement.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Exactement. Alors au départ le voyage, après je me suis vraiment intéressée aux sociétés un peu en marge. J'ai beaucoup travaillé en Birmanie, au Bhoutan, et puis de fil en aiguille jusqu'à cette rencontre en 2003-2004 avec les peuples autochtones. Et voilà, et j'y ai trouvé ma place, et que peut-être si je peux apporter quelque chose, c'est de leur donner la parole sans jugement, surtout sans jugement. Et je me rends compte maintenant au bout de 15-20 ans que les gens sont beaucoup plus disponibles. et la première série sur Inter, j'étais le dimanche à 15h, genre rubrique ethno. Et la dernière série, on était diffusée le vendredi à 17h sur le créneau de Charline Vanhoenacker, 1 million d'auditeurs. Donc ça prouve le chemin, ça prouve pas la qualité de la série, je parle pas du tout de ça, mais le chemin parcouru par nous tous. Et aujourd'hui, très très clairement, c'est la voix des femmes autochtones. Elles sont un laboratoire d'idées pour demain, pour construire un monde plus juste, plus respectueux, plus durable. Et elles proposent, mais les peuples aussi proposent toutes ces alternatives. Et en fait, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir si on ne fait pas appel à leur sagesse et si on ne se met pas ensemble à construire le monde de demain.
Mais c'est vraiment la problématique qu'on observe depuis des centaines d'années, quand l'homme occidental arrive quelque part dans une ethnie, dans un peuple, plutôt que d'être dans une complémentarité à essayer de comprendre l'autre et voir ce qu'il a découvert de son côté, on va complètement imposer nos propres croyances et traditions.
Non, c'est pas fini d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, grâce à des gens comme Philippe Descola et bien d'autres, aujourd'hui, on peut parler d'un environnement avec des humains et des non-humains. Et dire qu'effectivement, il y a des interconnexions entre les plantes, les arbres, le cosmos. Il y a 15 ans, on vous prenait pour un fou. Aujourd'hui, c'est acceptable. Quand Descola dit dans son dernier livre « La nature n'existe pas », il est entendu. Donc un long chemin a été fait, des journalistes se sont impliqués, je pense à Sylvie Brieux, Éric Julien qui est un peu le messager des Coguilles, pourquoi pas Maurice Rebex, à notre échelle, à nous, c'est 60 documentaires. Je pense que les gens sont de plus en plus disponibles et quand je vois le succès du film samedi matin, Nos Racines, pas évident parce que là on est vraiment dans le monde de l'invisible et la conférence qui suit derrière avec 300 personnes qui applaudissent et qui ovationnent Alina qui est Cheyenne du Montana. Et là je me dis les choses changent, les gens sont beaucoup plus réceptifs, c'est plus les bons sauvages, il y en a toujours qui pensent ça, mais laissons-les penser ça, avançons ensemble.
Par rapport à ce travail que tu as fait dans différents pays, hein, tu parles de 16 pays, mais il y en a eu sûrement beaucoup d'autres aussi où tu allais rencontrer différentes voix. Quels seraient les grands messages portés par ces communautés qui seraient importants et urgents d'entendre aujourd'hui ?
Le collectif. D'ailleurs, dans l'autochtonie, comme on dit, il n'y a pas de « je suis, tu es ». Là, les femmes, quand elles prennent la parole, elles ne la prennent pas pour elles. Elles la prennent pour les femmes, elles la prennent pour les peuples et elles la prennent pour l'humanité et pour demain. Sans doute aussi parce qu'elles sont à la fois femmes, épouses et mères, mais elles pensent véritablement à l'avenir de leurs enfants. Et la différence avec les hommes, j'allais dire, c'est qu'elles sont beaucoup plus dans un langage de transparence, elles sont beaucoup plus cash et elles sont dans l'action quoi. Elles sont dans l'action parce que par définition il faut aller chercher à manger pour nourrir les enfants et la famille, ben, il faut y aller, donc il faut trouver des solutions et c'est comme ça qu'elles deviennent des expertes de terrain comme dit Indou Maru qui va les représenter à la COP27 puisque depuis quand même quelques années les savoirs autochtones sont reconnus en matière d'écologie, c'est qu'elles n'ont pas Bac+10, par contre elles savent en regardant dans les étoiles, en regardant le sens du vent, en regardant une bouse de vache, comment va l'écosystème et comment le gérer et comment le soigner et le guérir. Et ça, c'est très, très important. Donc, voilà, le collectif, évidemment, beaucoup, beaucoup moins d'égo. Je pense que ce qui nous tue, ce sont nos égos. Et le collectif est d'œuvrer pour le bien commun, pour le summa causa, le bien vivre en harmonie, le bien commun. Une société où le bien commun serait au centre et au cœur de cette société-là. Je crois qu'on en est loin.
Donc, sortir du système de propriété ?
Ah ben il n'y a pas de propriété. Par exemple, les femmes s'occupent du chakra, du jardin, mais quand il y a un chakra, le chakra de l'une d'elles, où c'est le moment de la récolte du manioc, elles vont toutes ensemble cueillir la récolte du manioc, et puis après ce sera au tour de l'autre. Et si une, par exemple, parce qu'il y a eu un problème, n'a pas de manioc, on va lui donner le manioc. C'est ce qu'on appelle à la fois les mingas, c'est la gestion collective de la propriété. Et même au niveau de la démocratie, ce sont pour certains des ancêtres de la démocratie directe. Je pense en particulier aux Indiens Taquilés sur l'île Titicaca. Tout simplement, on va vous chercher. Vous ne pouvez pas vous présenter. Vous savez que vous serez plus pauvre que plus riche à la fin de votre mandat et vous serez immédiatement révocable à tout moment et vous ne pouvez être choisi qu'associé à votre femme. Donc, homme et femme, ça en dit long quand même sur nos systèmes politiques et nos systèmes de pensée.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Anne, qu'est-ce qui te motive de continuer comme ça à voyager, aller à la rencontre de ces peuples ?
Qu'est-ce qui me motive alors je pense que ce serait vraiment très prétentieux que de se dire que j'ai une mission qui est de porter la parole. Mais en fait, je travaille aussi, par exemple, en ce moment, je suis en résidence journaliste dans l'Aisne. Et c'est pareil, je porte la parole des jeunes. On est dans un territoire un peu isolé. Donc vraiment, en fait, peut-être mon objectif, c'est de porter, d'offrir aux gens qui n'ont pas la parole un espace de parole et de faire en sorte, puisque moi, mon métier, c'est un métier d'artisan, de faire en sorte que leurs paroles soient entendues. À titre personnel, je pense qu'on s'enrichit des rencontres, de notre rencontre aujourd'hui, de la rencontre de ces peuples. Là, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas partie depuis 6 mois, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités, le livre, et en fait, ça me manque. En fait, je me nourris de leur richesse et de leurs rencontres. Et à la rencontre littéraire, on me posait une question sur la définition de l'identité. En fait, j'ai répondu en biaisant un peu la question en disant j'adore la définition d'Eric Erickson qui parle d'un ensemble d'harmonie et je pense qu'on a une identité individuelle qui évolue au cours de la vie tout comme on a une identité collective au départ de l'appartenance à un groupe qu'on ne peut pas renier mais qu'en fait cette identité elle devient plurielle et elle s'enrichit des rencontres et que dans tous les cas les identités elles se superposent et elles ne se soustraient pas.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Anne, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les jeunes qui veulent être journalistes aujourd'hui, qui veulent vivre de leur passion ? Est-ce que c'est possible encore de voyager, d'aller à la rencontre de ces traditions et de ces peuples ?
Oui, c'est possible. Alors, y a plusieurs questions dans ta question. Être journaliste, c'est encore possible, c'est compliqué, c'est aujourd'hui très très formaté. Je crois qu'il faudrait retourner à l'essence même du journalisme quand j'apprends qu'à l'IB, plus personne ne veut partir en reportage. Dans les journalistes de la nouvelle génération, c'est terrible. Parce qu'en fait, je réponds avec grand plaisir, mais en fait, je suis bien que sur le terrain. Enfin, c'est mon métier, c'est d'être sur le terrain. Après, j'anime des conférences, ça fait partie de mon métier, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes journalistes ont plus très envie de partir en reportage. Je vais faire la vieille, moi, j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, et pourtant je travaillais à l'étranger. Je faisais quand même. Et puis qu'on est dans une sorte d'urgence. Moi, là, il ne faut pas chercher forcément, même si, effectivement, il faut manger, il faut payer son loyer à la fin du mois. Mais je pense que si on est dans une démarche comme ça de business, ça ne peut pas fonctionner. Ça peut arriver au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, mais c'est les résultats d'un engagement. Oui, il y a toujours des manières de voyager, le Wi-Fi, il y a toujours des manières de... Ces communautés, vous arrivez, vous dites, moi, j'ai envie de rendre service à la communauté, vous serez accueillis sans argent et vous serez logés, on vous nourrira. Donc oui, il y a des manières alternatives. Par contre, il faut être en capacité d'être disponible et surtout d'arriver sans jugement. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur d'une société où tout est très clivé, où on fait des procès sur les réseaux sociaux, où on a l'impression de tout savoir. Moi, je ne sais rien et plus j'avance et moins je sais. Et ça, je crois que c'est pas tendance.
Anne, tu dis que tu te sens bien essentiellement sur le terrain. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que tu te sens mieux sur le terrain qu'ici ? Qu'est-ce que tu retrouves là-bas qui fait que tu te sens à ta place ?
Et ben justement, le fait, alors j'ai une famille, j'adore mes enfants, j'ai des amis, j'adore être en France et à Paris, mais justement, d'être avec eux, c'est... Ils sont super cash, super nature, ils s'embarrassent de rien. Bon, il faut savoir qu'ils vous disent jamais non frontalement, donc il faut apprendre à décoder. Juste un petit exemple, et peut-être qu'on terminera là-dessus, juste un dernier exemple. On est un petit réseau, on se connaît tous. Hein. Donc on me demande il y a quelques années d'accueillir des Indiens de la forêt du Panama qui étaient en prise avec les narcotrafes, la déforestation, enfin c'était absolument terrible ce qu'ils étaient en train de vivre. Ils n'avaient jamais quitté le Panama, donc on était vraiment dans un Indien dans la ville, c'est-à-dire dans l'avion, ils voulaient accrocher le hamac. Moi je les récupère donc à la maison, chez moi c'est un peu l'ambassade du monde. Dès qu'ils arrivaient, ils déshabillaient, ma fille qui était petite, elle avait peur en fait. Et puis ils me demandent d'organiser vraiment des rencontres avec des gens comme Descola, avec des écrivains voyageurs, des gens qui comptent, qui pourraient sensibiliser les autres à leur problématique. Bon, ils vont voir aussi des gens dans les ministères et tout ça. J'organise donc une fameuse rencontre. Et puis c'était la journée où je ne sais pas pourquoi, ils étaient au festival Aventure. Ils reviennent, ils sont fatigués. D'abord, ils arrivent, ils prennent la bouteille de rhum qu'ils m'avaient offert et ils la liquident parce qu'ils ont un rapport à l'alcool qui est complètement différent du nôtre. Donc je prends la bouteille. Et donc j'avais organisé un buffet avec des spécialités un peu franchouillardes et tout. Et en fait, ils étaient fatigués. Et en fait, ils sont montés dans leur chambre, dans le grenier. J'avais aménagé une chambre dans le grenier. Ils ne sont jamais redescendus. Et 20 personnes étaient là pour eux. Et bien eux, non. Ils étaient fatigués. Donc ce n'était pas le moment. Et bien voilà, finalement, ça remet bien les choses à leur place. Et c'est ça, de ne pas s'embarrasser des choses, mais d'être soi.
Et à l'écoute de soi.
Et à l'écoute de soi, à l'écoute des autres et d'être en harmonie. Alors après, évidemment, aujourd'hui, le népotisme peut arriver, la corruption peut arriver, voilà, ils ne sont pas du tout angéliques, hein. Faut arrêter de les prendre pour des anges, faut arrêter de les mettre sous cloche aussi, ce sont des êtres humains, mais au moins, ça, sur le moment... J'étais pas très très contente, mais de toute façon je savais que je pouvais rien faire. Enfin, il y avait quand même 20 personnes qui étaient là pour eux, quoi. Et non, je dis ben non, ils sont partis se coucher. C'est un peu bizarre. Mais voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport très nature, je te donne. Il y a aussi une autre définition de l'autochtonie qui est tu dois rendre à la communauté ce que tu as reçu de la communauté. Ben voilà. C'est ça, c'est pas s'encombrer d'hypocrisie, et puis c'est être tout simplement soi et être en capacité à la fois de se reconnecter avec soi-même, on en parlera, certains pourraient parler d'éco-spiritualité, mais de se connecter avec les autres humains et non humains.
Le livre sur la table s'appelle La Voix des